Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série consacrée au cinquième épisode de Mandalorian. Je suis Jeff et ce soir toujours accompagné de Juliane et Sébastien, alors bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir Jeff.
Bonsoir, bonsoir. Alors, comme je disais, on va parler du cinquième épisode de la troisième saison de Mandalorian, donc c'est un épisode de spoilers. Donc, juste vous dire qu'on va parler, en général, on va faire une critique générale de l'épisode et ensuite, on va y aller avec des petites choses qu'on aimerait discuter hein, parce qu'il y a plusieurs petites choses à remarquer dans cet épisode et à discuter. Donc, c'est ce que nous allons faire, c'est la façon de procéder. Je ne sais pas si Seb ou Julien, vous aviez quelque chose que vous vouliez mentionner avant qu'on débute l'épisode.
Ben, potentiellement, on va dire, on fait, oui, mettons oui.
Vas-y.
On va faire un mini WhatsApp, là. J'ai finalement mis la main sur ma figurine Scorch de Black Series samedi dernier, puis je me suis fait un petit projet, en fait, parce que là, vous voyez, j'ai les quatre figurines avec des vitrines, et GF, toi qui connais bien les Black Series, tu sais que Scorch venait dans une boîte fermée, car ils ont changé leur façon de faire les boîtes. Et j'ai réussi à mettre une petite vitrine sur mon Scorch pour le faire fitter avec le reste de ses frères. Donc, je suis très fier du résultat final de mon petit projet du samedi soir. Puis, je suis content que je collectionne pas plus que ça les Black Series parce que je serais très, 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 très fâché contre Hasbro.
Ah, ils font ça avec tout à star G.I. Joe, Marvel, donc
Puis je me suis même procuré justement aussi une merveilleuse copie de Mara Jade Dark Force Rising, où je devrais plutôt dire Mommy Jade, parce qu'elle aussi, elle vient dans une boîte fermée dont on la voit pas. Puis quand on la sort de sa boîte, ben elle est sur un morceau de carton, entourée dans du papier... Elle est momifiée, là, comme quelqu'un disait sur Star Wars Geek Québec. Donc, j'ai décidé de la surnommer Mommy Jade depuis ce temps. Voilà.
All right. Et ben non, ils sont t'as fait une bonne job avec ton Scorch parce que c'est cool de voir les quatre ensemble dans le même format.
Ouais, ben c'est ça, tu sais, les avoir comme les trois puis un, là, ça jurait, là, comme on dit en québécois, ça fitait juste pas, et puis au final, ben là, tout fonctionne bien, donc c'était génial. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde dans le chat, s'il y a des gens qui nous écoutent sur YouTube, gênez-vous pas pour vous joindre au chat et puis discuter avec nous pendant l'émission, parce que ça va nous faire plaisir non seulement d'entendre, ben de lire vos commentaires, mais aussi de pouvoir les passer si jamais ils ont rapport avec le show ou avec ce qu'on dit, ça va nous faire plaisir de discuter et d'interagir avec vous. Jeff, yes, à toi.
Merci. OK, alors on y va avec nos critiques du cinquième épisode. Donc, épisode qui s'intitule Le Pirate, épisode écrit par Jon Favreau et réalisé par Peter Ramsey. C'est un épisode de 44 minutes, incluant les dessins là, de concept à la fin et les crédits. Donc, c'est un épisode à peu près 36-37 minutes. C'est ça. C'est un épisode ça se déroule assez vite. Hein? Il n'y a pas de longueur. Ça va droit au but.
Il y a beaucoup d'action.
Oui, il y a beaucoup d'action, exactement. Alors, on va y aller avec nos critiques générales de l'épisode. Alors, Juliane, on va y aller avec toi pour commencer.
D'accord. Donc, bien aimé l'épisode. Vraiment, des beaux flashs, des retours de personnages qu'on connaissait du Mandalorian et... On s'en va un peu vers Ahsoka, avec un, d'après moi, avec le retour d'un personnage qu'on va parler plus tard. J'étais pas sûre, mais juste avec la voix, j'ai fait « Ah! Oh, c'est lui! C'est bon! » On n'en dira pas plus. Le retour de notre cher pizza de hot slash le Grinch. Un bon mélange des deux, donc intéressant. Donc, super le fun de le revoir. Moi, je le trouve tellement drôle. Je le vois, je ris, là, donc ça a été sympathique de voir comment que les fonctionnaires de la Nouvelle République semblent s'emmerder. Ça a déjà été vu dans d'autres épisodes de d'autres séries, mais vraiment que... Il a de l'air à s'en foutre carrément. C'est un bon comédien, par contre, qui ont pris un petit rôle, mais c'est un comédien assez connu, je pense. C'est comment il s'appelle?
Tim Meadows.
Vraiment super intéressant, mais il fitait vraiment avec le personnage. Ils ont pris un très bon casting, je trouve, pour ce type de personnage-là. Oui, l'action, c'était le fun d'en avoir des super batailles... vaisseaux et compagnie, la fin que ben, la rumeur s'est avérée vraie. Notre ami Moff s'est vraiment évadé. Il n'y a pas eu de procès. Qui l'a sauvé? Mandalorian, ouais, pas Mandalorian. Donc, quand même, très le fun. Il y a beaucoup d'action. J'ai bien apprécié.
All right. Et toi, Seb?
Un épisode, comme tu dis, qui passe très très vite, là. Encore un épisode d'une quarantaine de minutes qui s'écoule super rapidement et on voit pas le temps passer, c'est beaucoup d'action. C'est super le fun comme épisode, mais je peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a des moments qui étirent la sauce pour un peu de développement au final, puis sur une saison de 8 épisodes seulement, ben je trouve que c'est un peu du temps perdu dans certains cas, mais au final ça reste quand même un très bon épisode avec plusieurs rôles là, qu'on voit, ben des personnages que ça nous tente de voir interagir ensemble, puis des scènes d'action à la Star Wars là, qui vont rendre les fans de Star Wars heureux.
Mm-hmm. All right. De mon côté, je suis dans la même direction que vous. J'ai bien aimé l'épisode. Les scènes d'action étaient encore une fois spectaculaires. Je dois avouer que les effets visuels cette saison sont très bien faits. Autant côté bataille de vaisseau, mais même les quelques personnages en CGI qu'on a sont très bien faits. Donc, on voit que le budget est là. J'ai bien aimé. Je comprends ce que tu dis, Seb, du côté que t'sais, la sauce. Je comprends ce qu'il essaie de faire avec de mettre l'histoire de la Nouvelle République, parce que dans le fond, ça s'en va vers le déclin de la Nouvelle République éventuellement, et on le voit déjà. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas un sentiment d'urgence encore comme il y avait dans les saisons précédentes. Saison 2, c'était de sauver Grogu de Moff Gideon. La saison 1, c'était, encore une fois, sauver Grogu, mais je veux dire, il y avait ce sentiment-là. On savait que ça s'en allait vers quelque chose. Là, on sait que ça s'en va avec le retour de Moff Gideon, ça s'en va vers ça. Mais c'est... On a 5 épisodes sur 8 de fait déjà, et on a l'impression qu'on ne sait pas encore dans quelle direction ça s'en va. On s'en doute que ça.
Il n'y a pas de stress sur les épaules de Mando.
Exact.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, on sait que ça s'en va vers Mandalore. On sait que ça s'en va avec un clash probablement final avec Moff Gideon. Mais c'est ça. Comme tu dis, il n'y a pas de pression encore sur Mando. Il est encore bien chill avec sa gang. On le voit hein, quand que le comment il s'appelle? Le
Paz?
De la République. Merci.
Captain Teeva.
Captain Teeva, il arrive sur la planète pour parler aux Mandaloriens. Là, ils ont tout l'air chill. Ils sont comme, il se passe rien, on fait pas grand-chose. C'est comme, yeah, c'est ça. Fait que moi, c'est la seule chose. Puis pourtant, j'aime bien les épisodes parce qu'il y a de l'action, ça bouge. Puis celui-là, aujourd'hui, ça passe vite. Mais c'est ça, il manque ce sentiment d'urgence-là, je trouve. Puis il reste juste 3 épisodes. Ben, dans le fond, c'est 2 épisodes pour arriver au dernier, que c'est là qu'il va y avoir la conclusion, là, qu'il va y avoir le clash final. Fait que c'est, je sais pas, j'imagine que les 2 prochains épisodes, ça va développer comme super vite. Mais bon. Mais en général, j'ai bien aimé. J'aime bien où ça s'en va avec les Mandaloriens, la direction mm-hmm. ça s'en va. Avec les décisions qui ont été prises, qu'on va parler un peu plus tard. Les caméos, encore une fois, cette semaine, très bien fait. Et très surpris aussi d'un certain caméo qu'on passait pas voir avant Ahsoka, mais bon, ça met la table. Et pour ceux qui n'aiment pas l'univers de Dave Filoni, ben là, on le sent. Le Filoniverse est en train de s'infiltrer encore plus dans Mandalorian. Ouais, petite coche de plus. Mais bon, c'est ça.
Je dois mon lait bleu à ça.
Et voilà. Mais moi, personnellement, j'ai rien contre le Filoniverse. Donc, moi, je suis là pour...
Beau flash.
Ouais, c'est ça. Puis, je vais... I'm gonna enjoy the ride, comme on dit. Donc, non, très bon épisode. Puis, j'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Donc, c'est ça. Alors, ce que nous allons faire maintenant, on va parler de différentes choses que nous avons remarqué dans l'épisode.
Ben, tu veux faire le recap de l'épisode avant, puis on discute de nos...
Ben, je sais qu'on avait arrêté de faire les recaps des épisodes. Okay. On peut y aller en ordre, par exemple, si tu veux. Ça, c'est pas de problème. Les choses qu'on a vues. Si on commence avec... ben, voilà.
Donc, la superbe statue de IG-11.
Oui.
Qui ne reste plus grand chose.
Ben, dans le fond, c'est.
Oui, c'est ça, il manque des bouts. Donc, le tout commence sur Nevarro. Puis on voit que Greef Karga est en train de parler d'expansion. Hein. Ils veulent.
Non, Greef Karga est en train de jouer à The Sims, en fait, avec Nevarro. tout simplement, il joue à The Sims avec Nevarro. Il fait on va déplacer le quartier de.
Ouais, c'est ça.
D'usine ici, puis ça va être plus proche des ports, ça va être mieux, puis tout ça.
On a besoin d'une rail pour transporter le tout.
Ouais.
Et donc, on arrive là, et s'ensuit une attaque des pirates. Gorian Shard est de retour. Moi, je l'appelle le Davy Jones des pauvres. je dois avouer que je ne m'attendais pas à le revoir. Moi, je pensais que c'était fini une fois qu'on l'avait vu dans le premier épisode. Les pirates sont de retour et attaquent Nevarro. Ah, tu vas lui mettre une image.
Ouais, je suis en train de chercher notre pirate préféré, mais...
Ben, c'est correct, tu l'as en hologramme.
Je vais aller à la fin, ça va être plus... C'est parce que j'aime vraiment... Je veux qu'on voit à quel point c'est pas juste du CGI.
Non, c'est ça.
Attends.
Non, c'est... On va la voir.
Attends, on va mettre celle-là. Et voilà. Notre pirate favori.
Oui.
Barbe verte. Alors,
oh, oui.
Barbe verte, oui, exactement. Même son
premier chef,
pas son bras droit ou je sais pas trop quoi, là, mais écoute, c'est vraiment cliché pirate. Ça n'a pas de bon sens.
Ben, c'est drôle de voir justement là, certains petits clichés, Peter Pan un peu, là,
ouais.
Avec en guillemets le petit gros qui est comme son second, puis justement là, les beaux vêtements rouges, puis tout. Puis il marche avec une canne parce qu'il est arrivé de quoi à une jambe. Là, il y a des moments où j'avais l'impression qu'il manquait un bras, même carrément. Je me posais la question. J'étais comme, vas-tu nous sortir un crochet next? Là?
Non, c'est ça. On a vu ses deux bras quand il a pris la roue pour guider le vaisseau. Donc, c'est ça. Donc, l'attaque. Les citoyens de Nevarro s'enfuient avec Greef Karga. Et Greef Karga lance un message.
Puis je suis vraiment déçu. Parce que dans la folie qui s'ensuit, il n'y a personne qui sauve avec un cantono.
J'ai pensé la même chose.
Tout le monde se sauve avec des choses qui tiennent comme un cantono, mais il n'y a personne qui sauve avec un cantono.
Donc, il lance un message d'urgence à la Nouvelle République pour qu'elle puisse venir en aide Nevarro et les aider contre six pirates. Le seul hic qu'il y a, c'est que Nevarro ne fait pas partie de la Nouvelle République, n'a jamais signé l'entente pour être inclus dans la Nouvelle République. Alors c'est ça. Donc, le message est reçu par le capitaine Vane, qu'on voit encore une fois.
Teva.
Pardon?
Capitaine Vane, non? Vane, c'est pas un pirate? De Teva.
Ah non, Teva. C'est pourquoi je dis Vane?
Oh. On suit.
Man, je sais pas si Vane, hein? Je sais pas d'où ça vient, ça. OK. Donc, et c'est drôle comment que le bar man ou bar woman ressemble à Polly, comment elle s'appelle, la fille de Tatooine.
Pelimoto.
Pelimoto. Donc, elle a une petite ressemblance de Pelimoto. Mais bon, donc on reçoit le message et il est accompagné, Seb, tu vas le montrer, du caméo.
Oh, que oui.
Et nul autre que Garazeb Aurelius.
Yeah.
Zeb pour les plus
intimes. Zeb pour les intimes, oui, voilà.
Ouais, c'est ça.
Bien donc, réussi, c'est... je trouve.
Oui, c'est.
J'avoue. J'avoue que quand je l'ai vu arriver, ma face a fait comme. What? J'ai comme pas cru, là, tu sais, pour un instant, là. J'étais comme. Ah, ben voyons, là, qu'est-ce qui se passe? Puis pour vrai, là. Puis sincèrement, il est vraiment, vraiment très bien réussi. Mm. Visuellement parlant, là, c'est incroyable, c'est même mieux que le Tarkin qu'on avait eu dans Rogue One, là, pour ceux c'est qui vrai. S'en souviendront. Fait que ça démontre à quel point ils ont développé leur technologie là, depuis ce temps-là, puis c'est quelque chose. Ouais. Puis dans l'image qu'on voit ici, ben on a à droite notre cher Dave Filoni avec son chapeau légendaire. Et Deborah Chow.
Pas fait d'effort.
Mais oui, toi, c'est vrai. Oh!
Puis Deborah Chow, puis l'autre, c'est. J'ai perdu son nom. C'est Rick Famuyiwa.
D'accord.
Rick Famuyiwa. Qui est entre les deux. Donc, c'est les trois réalisateurs. Et on peut confirmer que c'est bel et bien Zeb. Parce qu'il y en a qui pensaient que c'était juste un caméo de l'espèce. Non, c'est bien Zeb. Si vous regardez les crédits à la fin, c'est Zeb. Il est nommé. Et c'est le même acteur.
C'est Steve Bloom.
Faisait... Ouais. Oui, Steve Bloom qui faisait sa voix.
Ah, oh, j'ai reconnu tout de suite. Mon la voix, là, qui... c'est haut. Oh. Oui.
Alors, c'est ça. Donc, caméo très bien réussi. Qui, on s'en doute, c'est en train d'insérer Ahsoka, hein, parce qu'on voit. On va revoir le reste de l'équipe dans Ahsoka. On va peut-être voir Hera Syndulla dans Mandalorian.
Qui sait?
Avant, puisqu'elle est... à ce moment-ci, elle devrait faire partie de... Ouais.
C'était une générale dans Rogue One. Fait que...
Ça devrait être encore...
Elle devrait faire encore partie des forces, là, justement, qu'on voyait un petit peu plus tôt, vite, là, sur qui semble se relaxer un peu comme les amis au Vietnam. Là.
Ouais.
Ah, il n'y a rien comme l'odeur de fuel de X-Wing le matin quand je me lève.
On voit aussi que les... Ouais,
je veux que quelqu'un reprenne cette scène-là puis mette comme, soit Ride of the Valkyries ou bien... la toune de Apocalypse Now, là.
Ouais.
Ça, c'est merveilleux.
On voit aussi que les pilotes semblent, leurs habits semblent changer tranquillement vers ceux de la résistance dans la postlogie. Donc, tranquillement, ces petits changements arrivent. Donc, c'est ça. Donc, caméo très bien réussi. Donc, le message est reçu. Et donc, il décide de se rendre sur Coruscant parce qu'il sait que s'il envoie un message à Coruscant directement, ça va prendre des mois. Donc, il décide de se rendre lui-même sur Coruscant et plaider la cause pour Nevarro. Et qui ne voyons pas déjà. Là. OK, ça, je dois l'avouer, par exemple. OK, on va expliquer la scène. Donc, il arrive, il plaide sa cause comme quoi de la Nouvelle République devrait aider Nevarro. Là, il y a, écoute, la bureaucratie de la Nouvelle République, là, ça fait dur, pas à peu près.
Ouais, ouais.
C'est pire que le gouvernement du Québec. c'est complètement fou, là. Donc, on le voit, là, la République, ça s'en va, là. Ça s'en va tranquillement, pas vite, dans le déclin. Oui, c'est ça, la des Meadows qu'on voit à l'écran. Mais moi, je comprends pas pourquoi que Kane est là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Comment qu'elle peut avoir un poste à ce niveau-là quand elle est encore dans le programme de réhabilitation? C'est comment elle a pu réussir à s'infiltrer?
Je regarde ce sourire, JF, avec un sourire comme ça, tu peux monter dans les rangs super rapidement. Puis même quand elle parle, tu sais, avec notre cher Captain Tiva qu'on voit ici, qui la regarde tel un Canadien qui regarde une impérialiste qui met du sirop sur ses œufs. on voit clairement la haine quand. Tu sais, quand elle explique qu'elle a été libérée, là, tu sais, c'est comme...
Hey, come on, là!
ce qui est drôle, c'est que si on regarde avec l'épisode où elle a trahi le docteur Pershing, ça, ça fait pas des mois de ça, là.
Mais non.
Comment qu'elle a pu monter...
Ben, je pense qu'elle est déjà comme, tu sais, c'est comme une archiviste, là, ou quelque chose comme ça, à ce niveau-là, dans la hiérarchie. Mm. C'est juste qu'elle a réussi à se rendre, à travailler à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, bonjour, le monter à travers les rangs aussi rapidement que ça, là.
J'aime quand elle dit on devrait les laisser faire pour que tu sais qu'ils apprennent de leurs erreurs de ne pas avoir signé avec la Nouvelle République. On va les laisser sécher, là, mourir.
Puis l'autre, il dit bah ouais, pas de problème.
Puis là, il dit non, ça, c'est comme non, ça, c'est ce que vous faisiez avec l'Empire. Puis c'est là, comme tu dis, Seb, qu'elle dit moi, j'ai été libéré. Là, c'est comme
Puis on voit d'ailleurs, tu sais, le gros plan sur sa badge, là, de, à un moment plus, donné, là, qu'il regarde, tu sais. Puis c'est comme, hey, toi là, là.
qui, toi là, va être là, tu sais.
C'est ça, tu sais. Puis, effectivement, il y a Simon Damin qui met un bon point. Elle a peut-être été upgradée grâce à l'épisode 3, suite à ce qui s'est passé. Vu que c'est une snitch, entre guillemets, là, elle a gagné la confiance des plus hauts gradés là, dans la Nouvelle République, puis ça l'a fait monter plus rapidement. C'est pas impossible. Mais oui, effectivement, ça reste...
C'est louche.
Ils ont la promotion facile.
écoute, man, on va aller travailler pour la Nouvelle République.
C'est ça. Puis c'est là qu'on voit... Tu sais, c'est là que je me suis posé la question, puis que je reviens à ce que je disais justement quand on parlait à l'épisode 3 du démantèlement des Star Destroyer de l'Empire, puis toute la kit. Mm-hmm. Dans cet épisode-là, ils disent exactement on n'a pas les ressources pour, tu sais, comme s'occuper de toute la galaxie. D'autres, oui, t'es en train de les démolir. Qu'est-ce que tu fais? Mais, alors, fous des clones dedans. Parce qu'ils
disent qu'ils n'ont pas le monde pour les piloter ou s'occuper, je sais pas.
Non, c'est ça. Ben c'est ça. Tu cancelles tes lois sur les clones, tu refais des clones, puis...
Ouais, c'est ça.
Tu y vas. Mais bon, c'est une scène qui est quand même vraiment bien développée puis qui, justement, démontre à quel point la Nouvelle République y arrive pas, là, de tout court.
Ouais.
Puis tandis qu'on est sur cette image-là, j'en profite, je vais voir si moi je peux zoomer un peu là, sur les petites patches de Rancor, entre autres, puis les deux oiseaux, là, les patches d'escadron de Captain Tiva. C'est quand même assez intéressant de voir là, le développement de ce personnage-là. J'ai hâte d'avoir plus de littérature sur le personnage en question.
Ouais. Et en parlant de Snitch, ben justement, Captain Tiva retrouve les Mandalorians grâce au plus grand Snitch de tous.
Mais là, c'est ça. Entre-temps, on retourne vite sur Nevarro pour voir justement, Greef Karga fait un camp de réfugiés un peu plus loin de la ville. Là. Mais ensuite, on ressaute à notre ami Captain Tiva qui, comme tu disais, JF, la meilleure snitch de tout l'univers Star Wars.
Oui.
R5D4.
Qui l'aurait cru?
qui est toujours un droïde de la rébellion, ou du moins qui est toujours connecté avec la rébellion Nouvelle République. Donc, c'est de cette façon qu'il a réussi à retracer le Mandalorian. C'est quand même c'est bien.
Ça prouve aussi que Pelimoto doit avoir des liens avec la Nouvelle République et avec ces gens-là.
Ouais.
Parce que comment est-ce que lui saurait que R5-D4 est maintenant dans sa possession sans avoir parlé à Pelimoto, que Pelimoto lui ait dit?
Hmm.
Ouais. Il y a plein de développements qui est inexistant et qu'il faut qu'il soit... qu'il faut qu'il existe, qu'il soit apporté à cette histoire-là pour qu'on comprenne mieux. Mais bon, ça fait partie de ça finit sur le plancher d'édition.
Mm-hmm.
Puis on voit justement qu'il essaie de ne pas se faire tuer par les Mandaloriens.
Non, exactement. Donc, il recherche Din Djarin. Puis c'est là qu'on voit que les Mandos, eux autres, sont chill. Hein. Ils prennent ça cool dans leur... nouvel habitat, et donc il donne à Din Djarin le message de Greef Karga. Din Djarin qui décide de vouloir... Oui, vas-y.
Et il lui dit pas « Prends tes affaires, viens-t'en, on s'en va, je vais vous donner un coup de main. Tu sais, je suis le seul ex-wing, mais venez-vous-en, on va aller sauver Nevarro. » Non, non, il fait juste « Ouais, en passant, je voulais te dire que ton chum est dans le trouble, fait que tu veux peut-être aller l'aider. »
On peut pas rien faire pour lui.
C'est comme s'il se lavait les mains de tout le problème, tu sais, puis il veut pas nécessairement que la Nouvelle République touche à ça de près ou de loin. Puis moi, dans ma tête, je suis comme « Mais quelle opportunité ratée de justement aller chercher l'allégeance d'un nouveau monde du Outer Rim, mais bon. »
Ouais. J'ai bien aimé quand il a dit à la fin, il dit « Je sais que vous allez vous relocaliser, tu sais, parce qu'il a découvert leur cachette secrète, mais il dit « Je veux juste que vous sachiez, je ne vais pas le dire à personne où vous êtes. » Mais tu sais, de toute façon, à la fin de l'épisode, ils ne sont même plus là.
C'est ça.
Donc, Din Djarin décide de vouloir aller aider Greef Karga. Il plaide sa cause devant les autres Mandalorians dans un speech très émouvant. Il dit que tu sais, Greef Karga, c'est lui qui avait qui est un peu responsable du fait que les Mandalorians ne sont plus sur Nevarro, mais que depuis ce temps-là, il l'a aidé à sauver Grogu, son foundling. Donc, il veut aller l'aider. Bo-Katan est de son côté aussi. Et là, l'armurière demande si quelqu'un d'autre veut parler et Paz Vizsla décide de prendre la parole. C'est drôle parce que le speech, tu as l'impression que ça va dans une direction de comme je veux pas l'aider, je veux pas rien savoir.
Coup de théâtre.
Coup de théâtre, ouais, c'est ça. Surtout quand il dit qui sommes-nous pour pas nous sacrifier. Puis là, ben, nous sommes Mandalorian. Alors, ça fait partie de notre sang. Puis donc, ils décident tous d'aller aider. Greef Karga et Nevarro. Bo-Katan est en charge d'infiltrer les Mandalorians sur la planète, tandis que Din Djarin, lui, va s'occuper de distraire les pirates avec son Naboo N1 Starfighter. C'est là qu'on voit le leadership, encore une fois, de Bo-Katan.
Jeu d'actrice de Katie Sackhoff.
Mm.
Puis je vais le dire en québécois parce que ça rime et ça va être drôle, est tellement sacoche que c'est incroyable. Puis même, tu sais, comme pendant le speech, tu le vois justement, le GF, quand le moment, tu sais, quand le speech de Paz Vizsla change de bord, tu es comme, tu les vois, les deux sont comme, puis là, hein? Il y a comme un petit moment avec le casque, là, c'est merveilleusement bien joué. Mais ouais, non, c'est ça. Puis toute sa présence incroyable là, dans tout l'épisode, c'est vraiment une pure merveille de l'avoir revenir à l'écran. Mais j'avoue qu'il y a des moments où j'ai des échos de Battlestar Galactica 2000. Là, puis on va en reparler à la fin avec ce qui se passe. Mais ouais, c'est ça.
Ouais. Alors ensuite, là, écoute, vas-y, monte tes images parce que je sais pas dans... OK, c'est ça.
Ben, ils embarquent dans le vaisseau. Puis là, ben, en s'en allant vers Nevarro, il y a le In-Flight Entertainment. Fait qu'il ouais. regarde tout un holovid du bateau pirate.
Donc, ils sont en train de discuter leur plan. On voit les pirates, eux autres, qui ont pris le contrôle de Nevarro.
Qui ont fait ce que les pirates
sont en train de tout saccager. Ils sont en train de tout saccager. Et il voit
que là, c'était l'école, justement. Puis ils ont dit non, on va retourner ça en bar parce que c'est ça qu'on veut que ça soit.
Ouais, parce que c'était le bar originalement.
Ouais.
C'est vrai.
c'est ça. Donc, Davy Jones revient. Et là, c'est ça. Il voit le N1 de
Din Djarin
qui passe dans le ciel. C'est vraiment cool la façon qu'on le voit juste passer dans le ciel. Et il s'en va tout de suite. Il ne perd pas de temps. Il attaque directement le croiseur pirate. Et je dois avouer que j'ai été extrêmement surpris qu'un vaisseau de cette taille, un croiseur de cette taille, n'a aucun bouclier. Parce que, écoute, deux shots, puis on le voit en arrière-plan, là. Il y a déjà là, des canons détruits. Les moteurs du vaisseau se font détruire assez rapidement aussi, je dois avouer. Donc, je suis surpris que ce vaisseau n'a pas de bouclier qui peut résister au moins un peu. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'il réussit à l'avoir à force, mais...
Ouais, c'est ça. Ou c'est ce qu'il a détruit comme sur son premier passage.
Ah,
là,
aussi, peut-être.
Je sais pas. Mais effectivement, tu sais, ils ont pas levé les boucliers assez vite ou quelque chose, mais c'est spécial. Puis, pour ceux qui diraient, peut-être que c'est juste parce que ça fonctionne pas dans l'atmosphère, les boucliers, ben... Le vaisseau de Bo-Katan avait des boucliers en atmosphère avec les TIE Defenders il y a quelques épisodes déjà.
Mm-hmm.
Donc, oui, techniquement, les boucliers de vaisseaux de Star Wars fonctionnent atmosphériquement parlant.
Oui. Alors, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que le plan fonctionne. Hein? Tous les vaisseaux, les chasseurs pirates s'en vont après Din Djarin. Et pendant ce temps-là, Bo-Katan arrive et les soldats Mandalorian débarque pour aller aider Nevarro. Et c'est vraiment hot, cette séquence-là. Mm-hmm. C'est vraiment bien fait. Des voir justement tomber. Oui. Puis aller
moi, j'ai pensé à Commando, Mando Commando. Là. C'était direct ça.
Ouais. Puis écoute, ils niaissent pas. Hein. C'est comme les pirates, c'est paf, paf, paf. Tout meurt.
Elle, c'est drôle. C'est ça, elle tombe dessus, puis elle... Bang!
C'est ça.
C'est sûr qu'il est mort. C'est ça. Donc, c'est les pirates qui sont après Din Djarin. Et encore une fois, Din Djarin réussit à s'en débarrasser assez facilement.
Mm.
Je veux dire, il y a vraiment des habiletés de pilote extrêmes.
Mm-hmm.
Ça, je voulais parler justement. Ça, c'est ma théorie de voir ce petit lézard singe qui pointe les Mandaloriens pour leur dire « Il y a une embouche là-bas, faites attention, il y a une embuscade, ils vous attendent. »
Puis le Mandalorien de dire « Attention, on s'en va vers une embuscade.
» Ouais, c'est ça, attention, il y a une embuscade en avant. C'est ça, donc les pirates les attendent. Et ils aussi arrivent en arrière d'eux. Mais Paz Vizsla arrive et...
Dans toute sa gloire avec le upper shot, là.
Ouais.
C'est comme atterrissage, puis... Il aurait dû faire un slow-mo. Je suis déçu qu'il n'ait pas mis de slow motion à ce moment-là. Tu sais, c'est
comme...
Laissez-moi régler les problèmes.
C'est vraiment à la Schwarzenegger là, qui tue tous les pirates. Mais bon, ils réussissent à se faire... pas piéger, mais ils font... Ouais, on peut dire piéger. Grâce à ce canon qui est mis en haut de la tour, qui est comme la tour où Greef Karga travaille, là, son édifice. Les pirates tirent sur les Mandalorians, donc ça les empêche de progresser.
C'est pas
un canon qui a reçu comme parce que c'est le haut magistrat, il me semble, dans c'est le passé.
Je me rappelle pas de ça.
C'était pas comme un signe de pouvoir, là, que, en tout cas, je me mélange peut-être avec autre chose. Ah oui, excusez, c'est ça, je me mélange avec Our Flag Means Death. Je viens de me souvenir. OK. Bref, excusez.
donc, c'est ça. Donc, les Mandaloriens, comme je disais, sont pris. Ils ne peuvent pas progresser. Et dans une OK, on continue avec les scènes d'action. C'est ça, il y a un mélange de scènes de vaisseau et tout, mais la scène la plus haute, c'est la scène avec l'armurière.
Yes!
J'allais plus loin, GF.
OK, bon. Donc, entre-temps, c'est ça, on voit Din Djarin qui vraiment dispose des vaisseaux. Et là, il est aidé par Bo-Katan, parce que Bo-Katan, elle a droppé les Mandaloriens.
Et là, ben, c'est ça, les vaisseaux reviennent aider le vaisseau pirate de base. Puis c'est là que c'est drôle parce qu'il y a, il y a comme un petit moment où justement Din Djarin intervient, puis là c'est comme il est en haut de vous! Il est en dessous! Attends, il s'en vient, il est en dessous de toi, puis là, bang! Dans le vaisseau, un vaisseau qui s'écrase dans le vaisseau pirate. Tout pour aller mal pour ses pics.
Et c'est à ce moment-là que Vayne, c'est lui, Vayne le pirate, donc lui il se pousse, mais il décide de se pousser. Il est le seul vaisseau qui reste, puis il est comme « OK, moi, je m'en vais, man. T'es,
t'es,
t'es tout seul, là, boss. Moi, c'est fini, là. »
C'est le pirate qu'on a vu tout à l'heure, exact.
Ouais.
Puis là, le moment que GF adore, moment que moi, je décide de maintenant surnommer Hammer Time.
Donc, l'armurière qui arrive à la John Wick et qui ne fait que, qu'une bouchée des Mandalorians qui sont...
des pirates, tu veux
dire. Des Mandalorians. Man, je suis complètement mêlé. Oui, des pirates qui tirent sur les Mandalorians. Donc, on voit ses habiletés en tant que guerrière et c'est vraiment à t'avoir.
Puis là, malheureusement, je ne l'ai pas dans ce screenshot-là, mais le méchant vient juste de se faire de tomber.
Puis là, elle se met juste sur le bord, puis elle fait aucun signe. C'est comme, tout le monde sait, OK, we're good, on est correct, on y va. fait que c'est ça. Fait que là, les quelques pirates, je pense qu'il en reste cinq ou six, se font arrêter.
Essayent de se sauver de la ville, mais se font bloquer par les paysans. Puis quand ils se retournent pour essayer de retourner dans la ville, prendre une position de défense, ben là, finalement, c'est les Mandaloriens qui les attendent.
Et pendant ce temps, le vaisseau pirate, lui, il sait que ça s'en va vers la fin. Hein. Il veut pas partir. Tout le monde lui dit qu'il devrait retraiter puisque son vaisseau est très endommagé. Mais non, il décide de tirer dans le monde. Hein. Il veut tuer le plus de monde possible. C'est à ce moment-là que Bo-Katan et Din Djarin détruisent le dernier moteur, si on peut dire, fuselage. La dernière fusée de propulseur qui lui reste et le vaisseau s'écrase.
Voilà. Majestueusement.
Majestueusement, oui. Majestueusement, au pied de la montagne.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un vaisseau s'écraser d'une aussi belle façon quand même, GF.
Oui, j'avoue.
C'est vrai.
Ça fait d'accord.
Visuellement, là, parlant, là, c'était du bonbon.
Oui.
Tellement du bonbon que tout le monde est festif et célèbre.
Tout le monde est content. Donc, suite à ça, Grief Karga déclare que les Mandaloriens, premièrement, il les remercie de les avoir d'avoir sauvé Nevarro et il leur donne une partie des terres qu'il avait proposées à Din Djarin. Donc, ils vont pouvoir avoir leur propre territoire sur Nevarro pour eux, pour les Mandaloriens. Donc, c'est comme leur nouvelle maison, si on peut dire. Mm-hmm. Ensuite, c'est à ce moment-là que Paz Vizsla approche Bo-Katan et lui dit que l'armurière veut lui parler.
Tom, tom, tom.
Oui, tom, tom, tom. Donc, elle arrive
dans l'ancienne forge.
Le forge, je ne sais pas si c'était le même mot en français, là, mais donc c'est ça, le forge qu'on a pu voir dans la première saison. Et la première question qu'elle demande à Bo-Katan, pas une question, mais elle lui dit « Enlève ton casque. » Et Bo-Katan est comme « That's a trick, right? » Tu sais, c'est comme...
Ai-je bien entendu?
Ouais, c'est ça. Comme une, quoi? Là, elle était là, elle insiste, « Enlève ton casque, tu sais. » Fait que là, moi, ça aurait été drôle qu'à face, surtout quand elle lève son casque, « You are Mandalore no more. »
Ouais, c'est ça. Go home.
Ouais, c'est ça, go home. Tu sais, ça aurait été la façon qu'il se débarrasse de Bo-Katan. Ça aurait été tellement ridicule. Mais bon, c'est pas ça qui a...
Mais quelque chose à souligner, par contre, dans cet échange-là. Bo-Katan a une hésitation, puis c'est à ce moment-là que la forgeronne carrément lui dit est-ce que tu doutes de ma station, tu sais, comme...
Sa position?
De ma position dans la hiérarchie mandalorienne.
Mm-hmm.
Fait que là, on est en train de comprendre que dans le fond, dans l'histoire mandalorienne, puis la raison pour laquelle Din Djarin ne pouvait pas dire « Ah, j'ai le Darksaber, je suis un mandalorien, chut, tu peux rien dire », c'est que justement, t'as le gouvernement, puis t'as comme les forgerons en haut de ça, puis c'est eux qui sont comme le High Council, mm-hmm. la High Table dans John Wick. C'est vraiment eux autres qui sont par-dessus tout. Donc, c'est là que tu te rends compte à quel point les forgerons qui font les armures mandaloriennes sont plus importants que tout aux yeux des mandaloriens, de ce qu'on semble comprendre juste avec ces quelques lignes.
Mm-hmm.
Et elle lui dit aussi, moi j'ai bien aimé quand elle lui dit, tu sais, pour moi, le mythosaure, c'est un mythe, mais toi, tu l'as vu. Tu sais, puis, fait que là, c'est là qu'elle dit, tu marches dans les deux mondes, tu fais partie des deux mondes. Donc, suite à ça, elle demande à Bo-Katan d'unifier les Mandaloriens, donc de retrouver les autres Mandaloriens qui sont cachés un peu partout, des unifier et de reprendre Mandalore. Donc, j'avoue que c'était vraiment cool.
Ça, c'est comme le gros écho de Battlestar Galactica où Starbuck doit unifier les 13 colonies.
Ah ouais,
comme...
On la sentait très humble face à ça. Hein? C'était pas oui, je pars. C'est très. Elle a eu que c'était un rôle qu'on lui confiait. Moi, j'ai trouvé ça beau.
Puis c'est drôle parce que là, quand que l'armure et Bo-Katan vont rejoindre les autres Mandaloriens, puis Bo-Katan ne marche pas de casque, tout le monde est comme...
Hein?
Même Paz, il est comme... Il se passe quoi? Tu fais...
Je
comprends rien.
Fait que, c'est ça, c'est là qui explique le plan que Bo-Katan va unifier. Puis les Mandaloriens, donc elle va partir à la recherche d'autres Mandaloriens. Ça va être qui? Est-ce que ça va être ses coéquipiers qu'on a vus dans la saison 2? Mais il était juste deux, de toute façon.
Est-il encore à la toilette?
Donc, eux ou Sabine? Peut-être.
Mm-hmm.
Peut-être.
Mm-hmm.
Ouais. C'est une théorie. Donc, on va voir dans les prochains épisodes. Et oui, Danny, très bon point. C'est ça, l'armurière, c'est ça, c'est pas le leader politique, c'est plus comme le guide. Elle connaît tout, tu sais, elle connaît toutes les... C'est ça, c'est comme un leader religieux, elle connaît toute la histoire de Mandalore, elle connaît toutes les...
Les légendes,
Légendes et tout, donc elle peut seulement guider. Mais tout le monde l'écoute, hein, tout le monde sait ce qu'elle dit, là, c'est pas que c'est vrai, mais ils ont très confiance en elle et elle le prouve.
Ils apprennent aux mots, là.
Oui, oui.
Oui, c'est ça. Puis, tu vois, c'est drôle parce que, tu sais, tout le monde, puis moi le premier, là, tu sais, au début, quand on les a rencontrés dans la première saison, puis c'était comme, hey, t'as enlevé ton casque, t'es out, t'es plus un Mandalorian, puis tout, tu sais, t'étais là, man, c'est correct, il y a plus de, tu sais, il devrait plus faire partie de ce culte-là, de Mandalorian. Mais dans le fond, tu sais, c'est pas des mauvais Mandalorians. Puis là, je pense, tu sais, de les avoir tous unifiés, ben ça devrait être assez...
Mm-hmm.
J'espère qu'on va le voir. Donc...
Mais...
Donc, l'épisode se termine par...
Captain Tiva!
Captain Tiva. Pourtant, il y a un nom tellement facile à retenir. Donc, j'ai aucune idée si c'était juste une mission de reconnaissance ou il y a quelque chose qui l'a attiré vers cet endroit-là, parce que ça, on ne sait pas trop.
Non.
Mais... je pense qu'il était en patrouille autour de Nevarro pour essayer de prouver son point qu'il faut que la République
surveille
un peu ce secteur-là.
Ouais. Et il arrive devant une navette lambda qui est détruite, hein, comme on peut voir. Donc, il appelle comme à la centrale, si on peut dire. Il demande...
Eh, oh non! J'étais sûr que j'avais pris la shot en question. Laisse-moi 30 secondes pour la trouver, JF.
Parce que okay, alors, pendant que je vais juste expliquer ce qui arrive.
Ouais. Donc, mm-hmm.
C'est ça, il appelle la centrale, il dit, j'ai retrouvé une navette endommagée qui est abandonnée, on a tué dans le data, si on peut
des dire. Archives,
des archives. Oui, des transports.
Oui, c'est ça. On a tué des détails sur une navette dans ce secteur-ci. Là, il dit oui. Oui, on a trouvé quelque chose, mais c'est secret. C'est pas si secret, mais c'est...
T'es classé,
confidentiel,
là.
Oui, c'est ça, confidentiel. Donc, OK, là, il décide d'envoyer un petit probe. Je sais pas si c'est ça que tu l'as montré.
C'est exactement ça que je veux montrer. Oui, c'est tant je l'ai. Tiens. Puis ça, là, c'est tellement comme merveilleux comme moment pour tous les droïdes builders. Le probe en tant que tel qui s'en va, c'est la petite tête qui se détache du R2. Un peu comme similaire à la caméra que R2 servait dans la Swarm dans Empire Strikes Back. Là. C'est la même petite caméra qui peut se détacher dans l'espace, puis là qui s'en va pour aller scanner justement là, dans la navette qu'est-ce qui se passe. Ouais. Comme ça.
C'est le périscope, c'est ça, comme Danny mentionne. Dans le...
mm-hmm.
Donc, il fait le scan du vaisseau, le scan qui fait très Alien, comme on peut voir. Je sais pas si vous... Moi, ça m'a fait penser à ça, comme dans au début du deuxième Alien, quand il retrouve le vaisseau de Ripley.
C'est directement un nod à cette scène-là.
Ouais. Et c'est là qu'il apprend que le vaisseau était la navette où Moff Gideon devait être transporté au tribunal. Et il ne s'est jamais rendu.
Non.
Il ne s'est jamais rendu. Donc, qui a aidé Gideon à s'évader? Parce que les seuls corps qu'il retrouve, c'est les corps des pilotes de la navette.
Mm-hmm.
Il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres corps. Le corps de Gideon n'est pas dans la navette. Et ce qu'on voit, c'est un morceau qu'on peut voir en haut.
À gauche, pointé, là.
Ouais, c'est ici. C'est un morceau de Beskar. On apprend que c'est un morceau de Beskar.
Oh, oh.
Donc,
tu le vois-tu, alors, ton morceau de Beskar?
Donc, la question qui se pose est-ce que c'est les Mandalorians qui ont aidé Moff Gideon à s'échapper? Tan, tan, tan. Et c'est sur ce que l'épisode se termine. Et ensuite, nous avons droit au crédit. Je voulais savoir, vous en pensez quoi, vous? C'est-tu vraiment des Mandalorians? C'est-tu arrangé? C'est qui a sauvé Moff Gideon? Ça peut pas être les restes de l'Empire. Pas de l'Empire, mais je veux dire, c'est reste à lui, parce que...
Non.
Il me semble qu'ils sont pas assez... je veux dire, comme Kane, ça aurait pu être celle qui aurait pu faire ça, mais elle n'est pas là.
Non.
Donc, elle est comme infiltrée dans la Nouvelle République. Donc, qui a... aider Gideon à s'évader. C'est-tu vraiment des Mandalorians? Que vous en pensez?
Moi, sincèrement, je ne serais pas surpris que ça soit vraiment des Mandalorians. Par contre, c'est surprenant qu'il y ait un bout d'armure Beskar, tu sais, comme dans un fight qui se ramasse, qui parte d'une armure. Ouais. Mais bon, c'est pas impossible. On l'a vu arriver à Bo-Katan dans le dernier épisode. Moi, sincèrement, c'est une de deux choses, soit que c'est justement les anciens compatriotes de Bo-Katan qui sont maintenant comme des bounty hunters, fait que c'est aux enchères, la personne qui va payer le plus, nous autres, on va faire la mission. Ou sinon, c'est une certaine Mandalorienne qui veut travailler pour les restants de l'Empire pour se rapprocher d'un certain grand amiral.
Ouais, mais ça n'a pas de sens parce qu'elle est avec Hera puis Ahsoka, donc je pense pas qu'elle tuerait du monde de la Nouvelle République pour
juste pour se rendre
à Tron. Ouais. Ouais, ben, juste pour essayer de se rendre à Tron. Mais ça, c'est moi. Il me semble que c'est pas Sabine, ça. C'est pas son genre. Mais bon. On sait pas. Moi, j'aurais pensé que c'était les deux autres, justement, là, qui étaient avec Bo-Katan.
Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment comme des...
Sacha Bank, puis...
Mais moi, j'ai l'impression que c'est des Mando for Hire, la même chose que ce qu'on voit d'Din Djarin dans la première saison. Là, c'est,
moi aussi.
C'est juste ça.
Moi aussi, je pense ça.
Et je veux juste amener le commentaire de Serre qui demande... Ben lui, selon lui, c'est Tron qui est derrière l'exfiltration de Gideon et l'attaque de Nevarro. Est-ce que vous croyez ça?
Oui, ça, je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression que c'est lui qui tire les ficelles pour essayer de mettre de l'ordre dans les résidus impériaux du Outer Rim, puis essayer de ramener de l'ordre dans tout ça pour reprendre éventuellement le contrôle. Donc voilà. Juste avant, merci qu'on y aille avec les rumeurs, par contre, je vais mentionner quelques autres commentaires. Donc Alucard qui nous disait « J'ai l'impression que la Nouvelle République n'a pas appris des erreurs de la République, genre de ne pas aider un système qui n'a pas signé. Il tombe dans les mêmes travers.
Ouais, »
c'est vrai, c'est un des problèmes qu'il y avait justement pendant la guerre des clones avec les séparatistes et tout ça. C'est ce qui a comme causé justement l'avènement de l'Empire, mais le grandissement de l'Empire, là, plus facile. Ouais. Puis c'est Merci justement qui nous disait la ville de la planète de Nevarro semble pas avoir la population d'un petit village québécois. C'est vrai qu'il y a de l'air d'avoir plus de monde à Issoudun qu'à Nevarro.
À peu près 30 à Nevarro.
Eh hey boy!
Les autres sont tous morts, là, je sais pas, là, mais il en reste à peu près 30 à la fin. Donc j'avoue que pour une planète qui se développe là, avec les usines, les ports et tout, 30 citoyens.
C'est pour ça que le développement immobilier est important. Il va attirer du monde.
Ben, les autres se sont peut-être réfugiés dans les égouts, comme les Mandaloriens avant eux. Donc, on ne sait pas. Elsar qui nous dit, pour les Mandaloriens, c'est les Mandaloriens qui travaillent pour l'Empire, comme on voit dans Rebels. Oh! Un autre truc de Filoniverse qui s'est introduit dans cet épisode. Mais voyons donc, comment est-ce possible? Mais oui, c'est possible.
écoutez, si on y va dans les rumeurs, on ne va pas y aller trop hardcore parce que nous autres, on connaît. On a entendu quelques spoilers qui, dans le passé, se sont révélés vrais. Donc, pas mal tout ce que nous avons entendu pour le moment se sont révélés vrais. Donc, on va pas y aller dans ce sens-là. Des Stormtroopers avec des casques de Mandalorian, donc du Beskar, ça se peut. Puis t'amènes un bon point que
vers une rumeur qu'on a entendue.
Ouais, c'est ça. Mais bon, je vais juste dire que ce qu'on a entendu, c'est que certains Stormtroopers d'une certaine personne sont différents des autres Stormtroopers. Donc, oui, ça serait plausible. Ça serait plausible.
Ça ferait beaucoup de sens.
Ce qui irait plus dans la direction de ce que Seb a mentionné, où est SR, qui est derrière tout ça. Bon. Et voilà, c'est tout. C'est un épisode spoilers de rumeurs, là, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais oui, c'est très bon. Moi, ce que je me demande, c'est il va faire quoi? T'sais, Gideon va faire quoi? Qu'est-ce qui lui reste? T'sais, il va juste pas vouloir prendre sa revanche sur
Mandalorian. On sait qu'entre lui et Bo-Katan, il y a quelque chose.
Oui.
Fait que déjà, on sait qu'entre ces deux-là, il y a un développement quelconque, là, il y a une histoire, il y a un passé. Tant qu'à savoir vers quoi ça s'en va, on sait pas. Je veux pas aller non plus trop dans les rumeurs pour ça, mais tu sais, ça se peut que ça soit lui qui soit derrière l'attaque sur le palais de Bo-Katan. T'as ruiné ma vie, je vais te détruire. Ça se posait la question, ils ont-tu déjà sorti ensemble?
Ouais, parce que là, il vient pas de s'évader, Gideon. Ça fait.
Non,
écoute, il y a deux ans qui a passé entre la saison 2 et la saison 3.
Ouais.
Donc,
c'est pas récent. Donc,
oui, ça se peut fortement que ce soit juste Gideon qui est en arrière des attaques sur Nevarro et, comme tu dis, sur le palais de Bo-Katan, quand on a vu.
Sans que ça soit nécessairement sur Nevarro, parce qu'on sait qu'il y avait déjà des histoires qui existaient entre les pirates puis Greef Karga. Mais là, maintenant, c'est ça, c'est pour les Mando. Il y a quelque chose qu'on connaît pas encore parce que le personnage n'est pas assez développé là, de Moff Gideon puis des Mandaloriens. Mais il y a quelque chose entre les deux là, qui est pas, qui marche pas. Puis,
ouais.
Puis dans le fond, c'est ça. C'est pour ça qu'on voit comme ce développement-là. Présentement, un peu, tu sais, pour. Je serais pas surpris qu'on ait des flashbacks ou quelque chose, ou au moins une explication, mais j'ai l'impression que c'est ça qui va mener plus loin à une espèce de confrontation entre Bo-Katan puis Din Djarin, parce que pour convaincre les autres Mandaloriens de son pouvoir, il va falloir qu'elle récupère le Darksaber, donc il va peut-être y avoir comme quelque chose entre ces deux-là, puis Danny dit Gideon va devenir le Paleon slash Eli Vento de Tron. J'espère que non, parce que Filoni a déjà réécrit assez d'histoires comme ça. Il y a quelqu'un récemment qui me demandait pourquoi est-ce qu'il y a tant de fans qui ont de la misère avec Dave Filoni. Puis une des choses que j'ai omis de mentionner, c'est justement le fait que Dave Filoni a la fâcheuse habitude d'écraser des histoires qui existent déjà dans l'univers de Star Wars pour instaurer la sienne. Il nous force à accepter ces histoires comme étant canon puis à complètement délaisser les histoires qu'on connaît déjà. Donc ça, c'est juste un grand manque de respect là, pour ses collègues de travail au niveau de Lucasfilm, selon moi. Puis c'est très, très triste d'avoir ça. Donc j'espère que ça sera pas le cas. Puis moi... personnellement, j'espère que d'ici la fin de la saison, on voit la mort de Gideon qui mène à justement la révélation du personnage, du vilain majeur qu'on va voir dans Ahsoka. Ouais, c'est mon avis.
Ouais. Moi, tu sais quoi, c'est ça. La seule chose qui me fait douter que Tron est impliqué, qui n'est pas impliqué. Ce qui me dit que Tron n'est pas impliqué, Tron, c'est pas le genre de personnage qui cherche à se venger et vouloir tout détruire. Si Tron est celui qui aide Gideon, il ne laisserait pas Gideon juste se venger de Mandalorian. Pour lui, ça serait le plus... Tu sais, ça serait écoute, on a quelque chose à faire.
Une perte de temps, ouais.
Ouais, c'est ça, tu sais, il faut focusser sur le clonage de Palpatine, la reconstruction de l'Empire et tout. C'est là-dessus que Tron focuserait et non sur OK, on va aller attaquer un petit groupe de Mandaloriens qui, à cause que tu sais, ils t'ont fait mal la dernière fois, puis là, t'es. émotionnellement, ça t'a ébranlé et tout. Là.
Ouais.
T'as un bleu sur l'ego, ouais. on va aller te le penser.
Écoute, moi, j'ai quelque chose. Je vais montrer. Si je réussis à montrer mon image. Je vais juste l'ouvrir, man. Ouvre.
Sésame, ouvre-toi.
OK. Est-ce qu'on pourrait revoir ce personnage? Parce qu'on sait que Bo-Katan s'en va chercher des Mandaloriens.
Voilà. Ta-da. Oh!
Donc, est-ce que tout le monde sait c'est qui? Oui, non, peut-être.
Notre cher tête de Concorde. C'est Concorde Dawn, ouais?
C'est. C'est ça. Donc, c'est Fenro, hein, qu'on a vu dans Rebels, qu'on a vu aussi dans Clone Wars, je pense. Moi, je me rappelle plus de ce qu'il jouait, qu'on a vu dans Rebels.
C'est l'univers.
Voilà. Donc, c'est un Mandalorien justement qui aidait nos héros. C'est un Mandalorien qui déteste l'Empire et qui aidait nos héros dans quelques épisodes de Rebels. Donc, ce qui pourrait être un des personnages qui revient. Parce qu'on sait que l'acteur qui fait lui, c'est un acteur qui est quand même assez, qui est assez connu, c'est Kevin McKidd. Qu'on a pu voir dans le premier Trainspotting, qu'on a pu voir dans la série Rome, ceux qui ont vu la série d'HBO Rome. Ça pourrait être ça. Sinon, je ne vois pas. Je veux dire, tant qu'aller chercher des personnages obscurs de Rebels, ben pas obscurs parce que Zeb, c'est pas un personnage obscur, là, mais tant qu'à présenter des personnages et, comme tu dis, infiltrer le Filoniverse encore plus, ben voilà. Faire. C'est un Mandalorian en plus, donc c'est comme un autre, pas un autre secte, mais un autre groupe de Mandaloriens. Donc, c'est ça. J'essaie de me rappeler c'est quoi son sa gang de Mandalorian. Je me souviens pas. Mais bon. Je sais qu'ils viennent pas de Mandalore. S'ils viennent de... c'était quoi déjà? Concordon?
Concordon?
Ouais, Concordon. C'était la planète où ce qui retrouve Fenru. Ah, les protecteurs, c'est le même qui s'appelait.
C'est ça, okay. Ouais.
Les protecteurs. Donc, c'est ça. Ça pourrait être un autre groupe qui,
ben oui,
de Mandalorien qui joint à Bo-Katan. C'est pour.
On va voir où ça va mener tout cela. Il nous reste encore 3 épisodes?
Oui.
Ouais. 3 épisodes, oui. Mm-hmm. On sait déjà que le prochain épisode est de 45 minutes. Donc,
quand même.
À peu près
c'est bon, ça remonte un peu. On espère qu'il n'y a pas 30 minutes là-dedans qui vont être dédiées à...
Recap.
À développer un personnage semi-important.
Oui, c'est ça.
Mais, ouais. Parce que là, alors, c'est comme tu disais au début de l'émission, JF, c'est ça justement, on approche de la fin, puis les 2 prochains épisodes vont être comme bourrés de bonbons.
Oui, c'est ça.
Sincèrement, je retrouve un peu comme toutes les émissions Netflix là, dans ça. Là, c'est comme on commence tranquillement, puis là, à la fin, là, ouais! Let's go!
Ça ouais, cool.
On dit ça, là, mais tu sais, dans la série Book of Boba Fett, on savait à partir du 4e épisode qu'il est en guerre contre les Pikes. Puis là, pendant 4 autres épisodes, ben là, il y a eu 2 épisodes avec Mando. Il y a eu, tu sais, donc ça s'est pas rendu jusque-là. Ça, c'est comme on savait trop d'avance dans Book of Boba Fett pour que ça se monte jusque-là. Puis là, Mando, c'est le contraire. Là, il nous reste, hey, il reste 3 épisodes. Il arrive quoi, là, encore? Donc, c'est ça. C'est à suivre. Mm-hmm. À suivre. Mais c'est ça. Donc, on va voir ce qui va arriver dans les prochains épisodes de Mandalorian la semaine prochaine. Et c'est pas mal tout ce qu'on avait pour vous ce soir. Donc, juste avant qu'on quitte... Ah oui, Seb, tu remets...
Faut que je le remonte, là. Faut que je nous
remette
l'incroyable beauté là, de Seb. Là. C'est, ça laisse faire le saut, puis c'est ça. Puis en plus, quand on voit dans le... Quand on se rend jusqu'au crédit, puis que oui, on confirme que c'est bel et bien lui, moi, j'ai juste hâte... Qu'on voit Hera Syndulla.
C'est ça, puis sa voix est un... Oui, elle est pareille, mais elle est un peu différente. Il est comme...
Ben, il a vieilli aussi.
Il veut pas, là, il est comme, c'est quoi, 15 ans.
Il a l'air plus smooth.
Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Moins stressé, là, il a l'air plus chill.
Ouais. C'est comme, on a gagné, fait que là, on est en train de développer la Nouvelle République, puis tout va bien, il n'y a plus de problème.
Ouais, c'est ça. Exact. Donc, juste vous rappeler, s'il vous plaît... Abonnez-vous à notre page YouTube, les cloches, le pouce, partagez des épisodes pour nous aider à faire croître la communauté de Star Wars en direct. Je remercie tout le monde qui était dans le chat ce soir. Je sais qu'on ne le fait pas assez souvent, mais vos commentaires sont toujours super intéressants. Puis ça nous fait vraiment plaisir de vous lire. Donc, si vous regardez cet épisode, pas en direct, que vous regardez plus tard, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur notre page YouTube, Facebook et tout. On va aller vous lire, puis si vous avez des questions ou quoi, on va vous répondre, c'est sûr. Mais merci à tout le monde qui était dans le chat ce soir. Prochains épisodes, ben, il va y avoir un épisode de Mandalorian la semaine prochaine. Il va y avoir aussi un épisode de Bad Batch, parce que c'était la finale de Bad Batch, la deuxième saison de Bad Batch aujourd'hui. Donc, les 2 derniers épisodes ont été diffusés sur Disney+. Là aussi, ça brasse. Je ne sais pas si vous les avez vus, là, mais ça a brassé. Donc, j'en dis pas plus.
Mais oui, c'est mon prochain regard, là, ça va être ça, justement.
Ouais. Donc, j'ai bien aimé. Je trouvais que la saison 2 de Bad Batch était très longue, mais ça se termine d'une façon que c'est sûr que Julianne, tu es au Celebration, c'est sûr qu'il va annoncer une 3e saison. C'est sûr, sûr, sûr.
C'est très possible. Il y a un panel Bad Batch, justement, puis sûrement qu'ils vont l'annoncer.
Ben, là, ouais. Parce que si ça finit de la façon que ça a fini, c'est comme...
Non, non.
Ben là, tu peux pas laisser ça de même. Là. Ben, OK. Donc, allez le voir si vous l'avez pas vu. Même si vous aimez pas Bad Batch, regardez le premier épisode. Regardez les 3 derniers. Vous allez voir, ça résume pas mal la saison en 4 épisodes au lieu de 16. C'est très bon.
Puis Jean-François a peut-être mentionné aussi qu'on va avoir des trucs spéciaux pour la célébration aussi.
Oui, c'était mm-hmm. ma prochaine. Donc, Star Wars Celebration qui se déroule du 7 au 10 avril. Donc, pas ce week-end qui s'en vient, mais le week-end prochain, le week-end de Pâques. C'est ça. Donc, on va avoir des émissions spéciaux. On va avoir des reportages. Je sais qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui va être, dont toi, Juliane,
oui.
Qui allait être à Londres pour le Star Wars Celebration et vous allez nous rapporter toutes ces nouvelles qui vont sortir. Donc, il va y avoir des petits épisodes là-dessus. On va essayer de garder nos épisodes réguliers. Donc, la semaine prochaine, mercredi, c'est sûr qu'il y a Bad Batch.
7 au 10 avril, exactement.
C'est pas ça que j'ai dit?
Oh oui.
Oui, oui.
Ouais, okay.
Je faisais juste rajouter du visuel.
OK. c'est ça. Donc, ça fait partie des prochains épisodes qui s'en viennent pour Star Wars en direct. Donc, de la part de Sébastien, Juliane et moi-même, ben, je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.